Chapitre 1. Les larmes de l'acier. La roue du temps tourne, et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Puis les légendes se métamorphosent en mythes, qui sombrent même dans l'oubli, longtemps avant la renaissance de l'âge qui leur donna le jour. Au cœur d'un âge nommé le troisième par certains, une ère encore à venir et depuis longtemps révolue, un vent se mit à souffler autour de la flèche d'albâtre appelée la Tour Blanche. Sans être le début, car il n'y a ni commencement ni fin à la rotation de la roue du temps, ce vent était un début. S'enroulant autour de l'édifice, ce vent en caressait les pierres parfaitement jointes et faisait claquer de majestueux étendards. Bizarrement, cette tour était à la fois gracieuse et puissante, le symbole peut-être des femmes qui y vivaient depuis plus de 3000 ans. De l'extérieur, peu d'observateurs auraient supposé que la tour blanche, en son cœur, était brisée et corrompue, et désunie par-dessus tout. Au-delà, le vent traversait une ville qui évoquait davantage une œuvre d'art qu'une capitale. Ici, chaque bâtiment était une merveille. Tout, jusqu'à la devanture en granit d'une échoppe, avait été modelé par des mains dévouées à la beauté et à la splendeur. Des mains d'ogier, évidemment. Là, un dôme imitait la majesté d'un soleil levant. Ici, l'eau d'une fontaine jaillissait du toit d'un bâtiment surmonté par ce qui semblait être deux vagues se percutant. Dans une rue pavée, deux bâtiments de trois niveaux en forme de femmes géantes se dressaient face à face. Ces chefs-d'œuvre de marbre, mi-statues et mi-habitations, tendaient leurs bras de pierre comme s'ils se saluaient. Dans leur dos, des cheveux pourtant pétrifiés semblaient cascader jusqu'à leurs reins. Une réalisation si délicate que chaque mèche semblait prête à onduler sur le passage du vent. Les rues étaient beaucoup moins grandioses. Bien entendu, on ne les avait pas disposées au hasard, puisqu'elles partaient toutes d'un seul point, la tour blanche, pour se diffuser tels les rayons du soleil. Mais partout, des tas de débris et d'ordures témoignaient du désordre que semait le siège. Sans parler de la surpopulation qui en découlait. Mais cet afflux d'étrangers n'était peut-être pas la seule raison du laisser-aller. Par exemple, les enseignes et les auvents des boutiques semblaient n'avoir pas été cirés ou lavés depuis des lustres. Dans les venelles, les détritus attiraient les mouches, et les rats chassaient toute autre forme de vie. À tous les coins de rue, des voyous guettaient d'éventuelles proies. À une époque, ils n'auraient pas osé se montrer au grand jour, surtout en affichant une telle arrogance. Où étaient donc la loi et l'ordre, la responsabilité première de la Tour Blanche? En ville, de jeunes crétins rigolaient, arguant que le siège était responsable de tout. Dès que les renégats auraient été matés, tout rentrerait dans l'ordre. Secouant la tête, des hommes aux cheveux blancs soulignaient que les choses n'étaient jamais allées si mal, même quand les aïels, des sauvages, avaient attaqué la cité, quelques 20 ans auparavant. Les marchands ignoraient les jeunes sots et les vieux sages. Pour s'en préoccuper, ils avaient trop de problèmes, surtout dans le port du sud, où l'afflux de marchandises par voie fluviale n'était plus qu'un souvenir. Là, des ouvriers aux torses de taureau s'échinaient sous l'œil attentif d'une Aes Sedai portant un châle aux franges rouges. Avec le pouvoir, elle détissait les protections et tentait d'affaiblir la pierre que les hommes cassaient à la masse puis emportaient au loin. Leurs manches retroussées révélant les poils noirs qui couvraient leurs bras, ces travailleurs frappaient la pierre à coups de pioche ou de masse. Leur sueur s'écrasant sur le sol ou dans l'eau, ils tentaient de dégager le bas des piliers où étaient accrochées les fixations de la chaîne qui interdisait aux bateaux d'entrer dans le port. La moitié de cette chaîne, désormais, était en quendillar, un matériau indestructible appelé pierre-cœur par certains. Confrontés à une tâche épuisante, les ouvriers faisaient de leur mieux. Mais les fortifications du port, modelées par le pouvoir de l'unique, n'étaient pas les seules preuves des dévastations provoquées par la guerre silencieuse entre les sœurs renégates, ou rebelles selon le point de vue, et celles qui tenaient toujours la tour. Continuant à souffler, le vent survolait le port, où des portefaix désœuvrés regardaient les travailleurs déblayer bloc de pierre après bloc de pierre. Les citadins les plus futés, ou peut-être les plus naïfs, murmuraient que de tels augures ne pouvaient avoir qu'un sens. Tarmon Gaidon n'était plus pendant très longtemps. Une fois les quais passés, le vent survolait la muraille blanche, les murs scintillants qui protégeaient la ville. Ici, au moins, la propreté restait de mise, et les gardes de la tour, leur concentration toujours totale, portaient en permanence leur arc. Rasés de près, leur tabard blanc immaculé et sans une reprise, ces archers sondaient les alentours avec l'attention redoutable d'un serpent qui se prépare à frapper. Pendant leur tour de garde, pas question que Tarvalon soit conquise. De tout temps, la cité avait repoussé ses assaillants. Par le passé, des trollocs s'étaient infiltrés par des brèches dans la muraille, mais dans les rues, on les avait taillés en pièces. Arthur Aile de Faucon lui-même s'était cassé le bec sur Tarvalon. Même les Aiel voilés de noir qui avaient ravagé le pays pendant la guerre qui portait leur nom n'étaient pas parvenus à la conquérir. Pour certains esprits, c'était une grande victoire. D'autres n'hésitaient pas à demander ce qui serait arrivé si les Aiel avaient vraiment voulu entrer en ville. Au-delà des murs, le vent passait au-dessus de la fourche occidentale du fleuve Erinin, laissant derrière lui l'île où se nichait Tarvalon. Ce faisant, il survolait le pont d'Alinder, si haut qu'il semblait vouloir tutoyer le ciel et défier d'éventuels ennemis de le traverser. Encore plus loin, le vent dépassait Alinder, un des nombreux villages qui entouraient Tarvalon. Un bourg presque désert depuis que ses habitants, terrorisés, avaient couru se réfugier dans la cité. À croire que le vent l'avait charrié, l'armée au service des renégates était apparue sans le moindre avertissement. Comme tous les gens qui vivaient à l'ombre de la Tour Blanche, les villageois ne s'étaient pas montrés assez naïfs pour attendre de voir ce que feraient les Aes Sedai. À quelque faction qu'elles appartiennent, ces femmes vous réservaient presque toujours une mauvaise surprise. L'armée ennemie était en position, mais elle hésitait encore. Forte de plus de 50 000 hommes, elle avait formé un immense cercle de tentes autour du camp beaucoup plus petit des Aes Sedai. Entre les deux, on avait établi un périmètre de sécurité. Ces derniers temps, il aidait à garder les hommes loin du fief des sœurs, en particulier ceux qui savaient canaliser le Saïdin. À peu de choses près, on aurait pu penser que les renégates comptaient rester là jusqu'à la fin des temps. Leur camp bruissait en permanence d'activité, les tâches quotidiennes, rien de plus. Et une kyrielle de filles en blanc s'affairait presque à toute heure du jour et de la nuit. Des novices, certaines vêtues de la robe traditionnelle et d'autres de tenues qui s'en approchaient plus ou moins. En regardant bien, on voyait que nombre de ces filles n'étaient plus de la première jeunesse, quand elles n'arboraient pas des cheveux gris. Mais on les appelait des enfants, et de fait, elles obéissaient comme des gamines, faisant la lessive, battant les tapis, ou nettoyant les tentes sous le regard impassible des Aes Sedai. Si ces mêmes sœurs jetaient de fréquents coups d'œil à la Tour Blanche, plantée comme un clou géant dans le lointain, il aurait été exagéré de les taxer de nervosité ou d'inconfort. Comme toujours, elles se maîtrisaient, même après une terrible défaite. En l'occurrence, la capture d'Egwene Alvéré, leur chère Damirline, désormais détenue à la Tour Blanche. Après avoir fait onduler quelques robes et arraché un peu de linge mis à sécher, le vent continuait son chemin vers l'ouest. Gagnant en puissance, il dépassait le pic du dragon, avec son sommet fendu et fumant, puis survolait les collines noires et la plaine de Karalein. Ici, entre les deux parois d'un défilé, ou à l'ombre de quelques bosquets de montagne, des poches de neige subsistaient, mais elles se faisaient de plus en plus rares. L'heure du printemps avait sonné, annonçant l'avènement des nouvelles pousses et des nouveaux bourgeons. Annonçant, peut-être, mais pour l'instant, rien ne se passait. Ces terres attendaient, assoupies, comme si elles retenaient leur souffle. L'automne précédent, la chaleur surnaturelle s'était maintenue une bonne partie de l'hiver, générant une sécheresse qui avait dévasté la végétation, à l'exception des plantes les plus résistantes. Enfin arrivé, l'hiver s'était déchaîné. Entre les tempêtes de neige et de glace, le froid avait achevé l'œuvre destructrice de la sécheresse. À présent qu'il avait disparu, les rares paysans guettaient en vain des signes encourageants. Insensible à leur détresse, le vent balayait les herbes brunies par le frimas et faisait trembler les branches toujours déplumées. Plus loin, à l'ouest, alors qu'il approchait de la rade d'Oman, une succession de hautes collines et de petits pics, quelque chose percuta soudain ce vent. Une masse invisible, née du lointain amas de nuages noirs au nord, et qui se déplaçait à contresens des courants aériens naturels. Consumé par cette entité, le vent, ou ce qu'il en restait, fut dévié vers le sud, survolant les pics et les collines, jusqu'à ce qu'il atteigne un manoir isolé niché au cœur d'une clairière, dans l'est de la rade d'Oman. Encore vivace, il balaya la demeure et les tentes dressées dans le vaste terrain découvert qu'il abordait. Derrière une fenêtre ouverte, Randaltor sondait ce terrain, les mains croisées dans le dos. Même s'il n'en avait plus qu'une, il y pensait toujours au pluriel. Au bout de son bras gauche, il toucha la peau parfaitement lisse du moignon, une guérison due au Saïdar, du bout des doigts de sa main droite. Quand il ne faisait pas un effort de concentration, il aurait juré que sa main gauche était toujours là. « De l'acier, » pensa-t-il. « Voilà ce que je suis. Cette perte est irréparable, alors Je prends sur moi et je continue mon chemin. Solide structure de bois conçue selon l'esthétique dominante chez les Domani argentés, le manoir tremblait sous les assauts du vent qui charriait des relents de viande pourrie. Une odeur des plus banales par les temps qui couraient. Quelques minutes après l'abattage, il arrivait que les carcasses grouillent déjà de verre. Fumer ou saler la bidoche n'y changeait rien. Le ténébreux touchait le monde, et les dégâts s'aggravaient jour après jour. Combien de temps avant que tout soit souillé comme l'avait été pendant des millénaires le Saïdin? Dans la longue et large pièce où se tenait Rand, la cloison extérieure était faite de gros rondins, et des planches découpées dans des pins, avec un reste d'odeur de sève et de vernis, composaient les trois autres. Une salle des plus austères, avec une fourrure sur le sol, de vieilles épées croisées au-dessus de la cheminée, et des meubles de bois auxquels s'accrochait encore parfois de l'écorce. Bref, un décor rustique délibéré, avec l'idée de faire oublier la sophistication des grandes cités. Cela dit, il ne s'agissait pas d'une cabane, loin de là, mais d'une sorte de retraite pour nobles désœuvrés.
« Rand ?»
souffla une voix très douce. Sans se retourner, le jeune homme reconnut les doigts de mine quand ils se posèrent sur son bras. Puis la jeune femme l'enlaça et posa la tête contre son épaule. À travers le lien, il sentit qu'elle s'inquiétait pour lui. « Mon acier, se remémora-t-il. »
« Je sais que tu n'aimes pas que... »
commença mine.
« Tu as vu les aiguilles des pins, à côté du camp de Bachéré ?»«
Oui, mais... » »«
Elles ne bougent pas dans la bonne direction. »
Même si mine ne réagit pas, dans le lien, Rand capta comme un pic d'angoisse. De leur chambre, au deuxième niveau du manoir, les jeunes gens dominaient le terrain où des étendards battaient au vent. Pour Rand, celui de la lumière et celui du dragon. Pour Bachéré, un plus petit drapeau arborant les trois deniers du roi, rouge sur fond bleu. Des fleurs qui ne mouraient jamais, un symbole idéal pour cette lignée. Les étendards battaient fièrement au vent, mais juste à côté, les aiguilles de pin ondulaient dans la direction opposée.
Le ténébreux est là, mine.
Rand aurait été tenté de penser que ce vent fantaisiste était généré par sa nature de taverne, mais ça ne collait pas, car les événements qu'il provoquait étaient toujours possibles. Là, on en était très loin. Un même vent soufflant dans deux directions, ça ne s'était jamais vu. Et même s'il ne parvenait pas à distinguer les aiguilles individuellement, il sentait que quelque chose clochait. Depuis l'attaque, le jour où il avait perdu sa main, sa vision n'était pas redevenue normale. On eût dit qu'il regardait en permanence à travers de l'eau. Mais ça s'améliorait lentement. Le manoir était une des innombrables cachettes que Rand avait utilisées cette dernière semaine. Des refuges, plutôt. Après le traquenard de ses mirages, il avait continué à changer sans cesse de résidence. La bonne tactique, quand on avait besoin de réfléchir et de semer des ennemis. Hélas, le manoir du seigneur Algarine, en Théar, n'était plus sûr. Quel dommage. Un endroit très agréable, vraiment. Mais il ne fallait jamais s'attarder quelque part. Sur le terrain découvert, les hommes de Bachéré avaient dressé leur camp, sans se soucier de piétiner la végétation déjà ratatinée et brunâtre. Autour, on voyait quelques nouvelles pousses, mais timides et maladives. À force d'aller et venir, les soldats les avaient presque toutes dévastées. Vues de haut, les tentes serrées les unes contre les autres rappelaient à Rand des pierres en ordre de bataille sur un plateau de jeu. Les soldats avaient remarqué l'étrange comportement du vent. Si certains désignaient les pins du doigt, la plupart gardaient les yeux baissés sur le plastron qu'ils polissaient, sur l'arme qu'ils aiguisaient ou sur les seaux d'eau qu'ils portaient. Tant qu'il ne s'agissait pas de morts ambulants, rien ne les gênait. En revanche, quand les esprits sortaient de leur tombe, les plus courageux avaient tendance à paniquer. Très mauvais, ça. Rand avait besoin que ses gars soient solides. Besoin? Depuis longtemps, ce qu'il voulait ou ce qu'il lui fallait n'avait plus aucune importance. La seule chose qui comptait, c'était la bonne santé mentale et physique de ses partisans. Des soldats comme ceux-là, disposés à se battre, à mourir et à préparer le monde pour l'ultime bataille. Oui, Tarmon Gaidon approchait. Et il fallait que tous ces guerriers soient assez forts pour gagner. Du côté gauche de la clairière, un cours d'eau dévalait le flanc de la petite colline, pas une taupinière mais pas loin, où se dressait le manoir. Des roseaux poussaient sur les berges au milieu de chênes nains qui ne semblaient pas vouloir se décider à bourgeonner. Loin des trunes rivières, le ruisseau presque pathétique suffisait pourtant à approvisionner les hommes en eau fraîche. Sous les yeux de Rand, le vent se reprit en main. Et les étendards flottèrent aussitôt dans la bonne direction. Donc, l'anomalie, ça n'avait jamais été les aiguilles des pins, mais les drapeaux. Entendant mine soupirer,
Rand mesura la profondeur de son soulagement, même s'il s'inquiétait toujours pour lui. Ces derniers temps, c'était à jet continu. Une angoisse qu'il captait chez les quatre femmes avec lesquelles il partageait un coin de sa tête. Trois parce qu'il les y avait invitées, et la quatrième après qu'elle eut lié contre son gré. Une des trois invitées était en train d'approcher. Avienda, venant rencontrer le dragon réincarné en compagnie de Rouark. Toutes ces femmes regretteraient bientôt de s'être liées à lui. Quant à Rand, il aurait aimé pouvoir regretter de les avoir acceptées, en tout cas les trois qu'il aimait. En réalité, il avait besoin de Mine, de sa force et de son amour, et il se servirait d'elle comme de tant d'autres gens. En lui, il n'y avait plus de place pour les regrets. La culpabilité, en revanche.
Iliena, souffla une voix très distante dans sa tête.
Lousterine Telamon, surnommée Fléau de sa lignée, se tenait relativement tranquille ces derniers temps. Depuis qu'il avait perdu sa main, Rand s'efforçait d'oublier ce qu'avait dit ses mirages ce jour-là. Pour le torturer, cette rejetée aurait raconté n'importe quoi.
Pour s'affirmer, elle a torturé une ville entière,
murmura Lousterine.
Histoire de faire la distinction entre les divers cris d'agonie, elle a exécuté 1000 hommes, chacun d'une manière différente. Cela posé, elle ment rarement. Très rarement, même.
Rand repoussa le spectre dans les limbes de sa conscience.
Rand,
répéta Mine, plus tendrement que la première fois. Le jeune homme se tourna pour regarder son aimé. Devant tant de finesse et de fragilité apparente, il avait parfois le sentiment d'être un géant. Ses boucles noires toujours très courtes, les yeux comme à l'accoutumée voilés par l'angoisse, Mine portait son éternelle tenue, une veste et un pantalon d'homme. Aujourd'hui, elle avait opté pour un vert qui rappelait celui des aiguilles de pin. Histoire de contrarier son tailleur, elle devait avoir insisté pour que la tenue mette en valeur sa fine silhouette. Du coup, des broderies d'argent d'inspiration florale décoraient les poignets de la veste, et de la dentelle prolongeait discrètement les manches. Sans doute à cause du savon qu'elle utilisait ces derniers temps, Mine exhalait une légère odeur de lavande. Pourquoi porter une tenue d'homme pour la couvrir de fioritures et de dentelles? Depuis longtemps, Rand avait renoncé à comprendre les femmes. Lire en elle comme dans un livre ouvert, de toute façon, ne l'aurait pas aidé à atteindre plus vite le mont Shayolgul. De plus, pour les utiliser, il n'avait pas besoin de les comprendre. En particulier quand elle détenait des informations cruciales. Non, il y a des limites que je ne franchirai pas. Des choses que même un type comme moi ne ferait pas.
Tu penses encore à elle?
Dit Mine sur un ton presque accusateur. Plus souvent qu'à son tour, Rand se demandait s'il n'existait pas un lien actif dans un seul sens. En cas de réponse positive, il aurait donné cher pour en maîtriser un.
Rand, c'est une rejetée,
reprit Mine.
Elle nous aurait tous tués sans l'ombre d'une hésitation.
Le jeune homme se tourna de nouveau vers la fenêtre. Elle n'avait pas l'intention de me tuer. Moi, elle m'aurait contrôlé. L'angoisse de Mine augmenta. Sans doute parce qu'elle pensait à la dame que ses mirages détenaient, quand elle avait tenté de se faire passer pour la fille des neuf lunes. Son déguisement étant détissé par les Terangreal de Katsuane, Rand avait pu l'identifier avant qu'il soit trop tard. Enfin, en réalité, c'était Lousterine qui l'avait reconnu. L'embuscade avait coûté une main à Rand, mais il en était sorti avec un des rejetés pour prisonnier. La dernière fois qu'il avait vécu ça, l'affaire s'était mal terminée. Aujourd'hui encore, il ignorait où était allé Asmodéane. Pourquoi s'était-il enfui au fond? Quoi qu'il en soit, depuis, il avait dû en dire long sur les plans et les activités du dragon réincarné.
J'aurais dû le tuer, j'aurais dû les tuer tous.
Rand acquiesça distraitement, puis il se pétrifia. Cette pensée était-elle à lui ou à Lousterine? Il crut entendre un rire, ou peut-être des sanglots.
Lousterine, tu es là?
Que la lumière te brûle! Parle-moi!
L'heure approche, et je dois savoir tout ce que tu sais.
Comment as-tu scellé la prison du ténébreux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi la geôle en a-t-elle gardé des faiblesses? Parle-moi!
Des sanglots, pas des rires, c'était sûr, à présent. Souvent, c'était difficile à dire, avec Lousterine. Quoi qu'ait pu raconter ces mirages, Rand continuait à penser au spectre comme s'il n'était pas une partie de lui-même. Bon sang, il avait purifié le Saïdine. La souillure ne s'attaquant plus à son esprit, il ne deviendrait pas fou. Mais la plongée dans la folie peut être très abrupte. Rand se souvint du discours de ses mirages, tenu devant tous ses compagnons. Ainsi, son secret était éventé. Mais dans une vision, Min avait vu son amoureux ne plus faire qu'un avec un autre homme. N'était-ce pas la preuve que Lustérine et lui étaient deux personnes différentes, coincées dans un même corps?
En d'autres termes, il entend la voix de Lustérine. Mais que ce soit réel ne change rien à l'affaire. Au contraire, ça aggrave son cas.
Les mots de ce mirage, à la virgule près. Rand s'intéressa à un groupe de 6 soldats qui inspectaient les chevaux attachés en ligne entre la dernière rangée de tentes et la lisière de la forêt. Consciencieux, il s'assurait de l'état de chaque sabot. N'importe quoi pour ne pas penser à sa folie, ni à ce que Katsuane était en train de faire à ses mirages. Heureusement, il y avait ses plans. Le nord et l'est ne feront qu'un. L'ouest et le sud ne feront qu'un. Et les deux blocs ne feront qu'un.
La réponse que lui avaient donnée les étranges créatures, de l'autre côté du portique de pierre rouge. Son seul viatique. Le nord lié à l'est. Il allait devoir forcer ces pays à faire la paix, qu'ils le veuillent ou non. À l'est, il pouvait compter sur un équilibre fragile, puisque Liliane, Mayenne, le Kairien et Théar étaient sous son contrôle d'une manière ou d'une autre. Au sud, les Séanchaniens dominaient l'Altara, la Raddoman, la Madicia et le Tarabon. Et s'ils avançaient dans cette direction, le Mourandi tomberait bientôt sous leur coupe. Ça laissait Andorre et Elaine. Elaine. Elle était très loin de lui. Pourtant, il sentait dans sa tête le noyau d'émotion qui était « elle ». Avec la distance, il était difficile d'en dire plus, mais il aurait juré qu'elle était « soulagée ». Fallait-il en conclure que sa lutte pour le pouvoir se passait bien? Dans ce cas, qu'était-il advenu des armées qui l'assiégeaient? Et ses frontaliers, que mijotaient-ils? Après avoir abandonné leur poste, ils s'étaient rassemblés, marchant vers le sud pour rencontrer Rand, mais sans préciser ce qu'ils lui voulaient. Parmi eux, il y avait certains des meilleurs guerriers de la colonne vertébrale du monde. Lors de l'ultime bataille, leur aide serait précieuse. Mais ils avaient quitté le Nord. Pourquoi? Rand n'avait aucune envie de les rencontrer, parce que ça risquait de dégénérer, l'entraînant dans une bataille qu'il ne pouvait pas se permettre en ce moment. Par la lumière, longtemps il avait cru que les frontaliers seraient ses meilleurs alliés contre les ténèbres, et voilà que... aucune importance, pour le moment en tout cas. Dans la plupart des pays, la paix régnait, en gros. Mieux valait ne pas penser aux rébellions récemment apaisées en Théar, à l'instabilité le long des frontières avec les satellites du Séanchan ou au complot de la noblesse okérienne. Chaque fois qu'ils croyaient avoir pacifié une nation, d'autres partaient en quenouille. Comment apporter la paix à des gens qui n'en voulaient pas? Min serrant plus fort son bras, il prit une grande inspiration. Il faisait de son mieux, et pour l'heure, il avait deux objectifs. La paix en Arad-Doman et une trêve avec les Séanchaniens. La réponse des créatures mystérieuses, désormais, n'avait plus rien d'énigmatique. Il ne devait pas affronter à la fois le Ténébreux et les Séanchaniens. Ces derniers, il faudrait les contenir jusqu'à ce que l'ultime bataille soit terminée. Après, la lumière pourrait les brûler tous. Pourquoi les Séanchaniens faisaient-ils la sourde oreille alors qu'il leur avait proposé une rencontre? Était-il furieux qu'il ait capturé ces mirages? Mais n'avait-il pas laissé partir les Souldames? Si ce n'était pas un gage de bonne foi, ça... La Raddoman en serait une autre preuve. S'il pouvait mettre un terme au combat dans la plaine d'Almoth, il démontrerait aux Séanchaniens qu'il désirait vraiment la paix. Il fallait qu'il voie cette vérité en face. Inspirant de nouveau à fond, Rand regarda encore le camp. Les 8000 hommes de Bachéré dressaient des tentes et creusaient des douves autour de la clairière, qu'ils entendaient aussi dotées d'une palissade. Autour des tentes blanches, la masse sombre du mur d'enceinte et des douves faisait un frappant contraste. Rand avait ordonné aux Achamans d'aider les soldats à creuser. Même s'ils détestaient cette tâche, ça accélérait considérablement les choses. De plus, il soupçonnait que ces hommes, comme lui, se régalaient en secret chaque fois qu'ils avaient une occasion de se connecter aux Saïdin. Il en repéra un petit groupe, des types qui ne pouvaient pas passer inaperçus avec leurs vestes noires. Dans le camp, ils étaient 10. Des soldats et des dédiés, seuls Flynn, Naef et Narishma étant de véritables Achamans. Les hommes qui s'occupaient des chevaux prenaient leur travail au sérieux. Même chose pour ceux qui garnissaient de pieux la future fortification, ou ceux qui pétaient la terre retirée du sol par les Achamans afin de l'ajouter à cette défense. Rand vit pourtant du déplaisir sur la trogne au nez crochu de bien des guerriers du Saldaea. Ils n'aimaient pas dresser leur camp dans une zone boisée, même si la forêt qui entourait la clairière ne semblait pas très dense. Au milieu des arbres, les charges de cavalerie n'étaient pas du gâteau, et les troncs pouvaient dissimuler des ennemis. Davram Bachéré sillonnait le camp en criant des ordres à travers son épaisse moustache. Le seigneur Telaen l'accompagnait, son ventre menaçant de faire craquer le devant de sa redingote. Vieille connaissance de Bachéré, il arborait la fine moustache favorite des Domani. En hébergeant Rande, Telaen prenait un gros risque. Accueillir les troupes du dragon réincarné pouvait aisément passer pour une trahison. Mais qui aurait pu le punir? Le chaos régnait en Arad-Doman, plusieurs factions rebelles se disputant le trône. En outre, il fallait compter avec le grand général Ithurald, qui livrait une guerre sans merci aux Seanchaniens dans le sud du pays. Comme ses hommes, Bachéré n'avait pas de plastron. En veste verte, il portait un simple pantalon d'uniforme enfoncé dans des bottes qui lui montaient jusqu'aux genoux. Qu'éprouvait-il à l'idée d'être pris dans la toile de Taveren de Rande? Sans s'opposer directement à la volonté de sa reine, mais en prenant pas mal de liberté. Depuis quand n'avait-il pas fait son rapport à la souveraine? Un jour, il avait juré que les renforts envoyés par cette femme ne tarderaient pas à arriver. Combien de mois s'étaient écoulés depuis? Je suis le dragon réincarné. Tous les pactes et toutes les alliances, je les fais voler en éclats. Les vieux liens n'importent plus. Tout ce qui compte, c'est Tharmon Gaidon. Tharmon Gaidon et les serviteurs du Ténébreux. Je me demande si nous trouverons Grindal ici, dit-il, mal à l'aise.
Grindal?
Répéta Mine.
Pourquoi crois-tu qu'elle serait dans le coin?
Rand secoua la tête. Des mois plus tôt, Asmodéane lui avait confié qu'elle était en Arad-Doman. Y était-elle restée? Pourquoi pas? Elle n'avait pas beaucoup d'autres choix en termes de royaume important. Grindal adorait avoir un fief secret loin des autres rejetés. À cette fin, elle ne se serait pas installée en Andorre, en Théar, ni en Iliane. Quant au royaume du sud-ouest, avec l'invasion des Seanchaniens, elle devait les avoir fui. Oui, elle avait sûrement une base arrière quelque part. C'était sa façon de faire. Probablement dans des montagnes bien isolées, au nord. Enfin, si elle était ici. Même s'il trouvait que ça lui ressemblait bien, Rand ne pouvait pas l'affirmer. Bon, d'accord. Même si Loustérine trouvait que ça lui ressemblait bien. Mais ça restait une possibilité, rien de plus. Rand demeurera vigilant, la guettant. Chaque élimination de rejeté lui faciliterait la tâche quand on en serait à Tharmon Gaidon. Des bruits de pas retentirent derrière la porte fermée. Rand et Mine se retournèrent en même temps, et la main du jeune homme vola vers son épée. Un réflexe, désormais. Même si ça n'était pas sa main directrice, la perte de sa sénestre le handicaperait, s'il devait affronter un adversaire compétent. Et bien qu'il disposât d'une arme surpuissante, le Saïdin, son instinct le poussait toujours à saisir son épée. Il allait devoir perdre cette habitude, sinon ça finirait par lui coûter la vie. La porte s'ouvrit pour laisser passer Katswane, aussi régalienne qu'à son habitude. Avec ses yeux noirs et son visage anguleux, c'était un joli morceau de femme. Dans son chignon gris, des petits ornements en or tintinabulaient. Des terangréales et des angréales, du premier jusqu'au dernier. D'une parfaite simplicité, sa robe de laine était tenue à la taille par une ceinture jaune, et des broderies de la même couleur rehaussaient le col. La robe elle-même était verte, ce qui n'avait rien de surprenant, puisqu'elle appartenait à l'âge avert. Par moments, Rand aurait juré que son visage austère, sans âge, comme chez tout Aes Sedai qui maniait le pouvoir depuis longtemps, aurait mieux convenu au rouge. Il serra moins fort la poignée de son épée, mais ne la lâcha pas. L'arme avait une longue lame, légèrement incurvée, et sur le fourreau laqué s'affichait un long et sinueux dragon aux écailles rouges et or. L'épée et le fourreau semblaient avoir été spécialement conçus pour Rand. En réalité, retrouvés très récemment, ils étaient vieux de plusieurs siècles. Comme il est étrange qu'on les ait trouvés maintenant, et qu'on me les ait offerts sans savoir de quoi il s'agissait. Rand avait immédiatement ceint l'épée. Sous ses doigts, elle semblait à sa place. Même à Mine, il n'avait pas confié qu'il avait reconnu l'arme. Bizarrement, pas seulement grâce au souvenir de Loustérine, mais en puisant dans les siens. Katswane n'était pas seule. La présence de Nineveh n'avait rien de surprenant. Comme un chat dont le territoire est envahi par un autre matou, elle lâchait rarement la légende ces derniers temps. Sans doute pour protéger Rand. Même devenue une Aes Sedai, Nineveh, quoi qu'elle dise, restait au fond de son cœur la sage dame de Chandemond. À ce titre, elle se montrait impitoyable avec quiconque osait malmener un de ses protégés. Tout ça, bien évidemment, parce qu'elle préférait s'en charger elle-même. En ce jour, elle portait une robe grise fermée par une ceinture de cuir, la poitrine barrée par une écharpe jaune. Le dernier cri de la mode en Arad-Doman, paraissait-il. Comme toujours, elle arborait sur le front le point rouge traditionnel. En matière de bijoux, elle trimbalait un long collier d'or, une fine surceinture du même métal, et toute une théorie de bagues et de bracelets incrustés de grosses gemmes rouges, vertes et bleues. Cette quincaillerie était en réalité une collection d'engréal et de terrangréal, l'équivalent de la panoplie de Katsuane. Plusieurs fois, Rand avait entendu Ninévé se plaindre que ces terrangréal, avec leurs pierres vulgaires, étaient impossibles à assortir à des vêtements. Si Ninévé n'était pas une surprise, Alivia, en revanche. Jusque-là, Rand n'avait pas conscience qu'elle avait sa place dans les réunions d'information. Une ancienne Daman, quand même. Cela dit, la Seanchanienne était réputée supérieure à Ninévé dans le pouvoir, et on l'avait peut-être conviée pour renforcer les défenses. Dès que les rejetés étaient concernés, on ne se montrait jamais trop prudent. Les cheveux déjà striés de blanc, Alivia était un tout petit peu plus grande que Ninévé. Le blanc ou le gris dans la chevelure d'une femme capable de canaliser était toujours un signe d'âge avancé. Très avancé même. À l'en croire, Alivia avait 4 siècles derrière elle. Aujourd'hui, comme par provocation, elle portait une robe rouge vif. Une fois libérée de la dame, beaucoup de damanes restaient sur leur compte à soi. Pas Alivia, à l'évidence. Chez elle, il y avait une intensité qui aurait pu faire penser à la ferveur d'un fils de la lumière. Sentant mine, serait dire, il capta aussi sa hargne. Au bout du compte, Alivia aiderait Rand à mourir. Une vision de sa compagne, qui ne se trompait jamais. Encore que... Comme elle l'avait rappelé, pour Moiraine, elle n'avait pas vu juste. Avec un peu de chance, ça signifiait qu'il n'aurait pas besoin de... Non, tout ce qui le poussait à se voir vivant après l'ultime bataille, en d'autres termes, tout ce qui l'incitait à espérer, était dangereux. Il devait s'endurcir pour accepter son destin et accueillir la mort lorsqu'elle viendrait.
« Tu as dit que nous pourrions mourir, » rappela Loustérine. « Tu as promis. »
En silence, Katsuane traversa la chambre et se servit un gobelet de vin aux épices. Après avoir reposé la carafe sur un petit guéridon près du lit, elle alla s'asseoir dans un des fauteuils en cèdre rouge. Au moins, elle n'avait pas exigé que Rand la serve. Avec elle, ça pouvait parfaitement arriver.
« Alors, qu'as-tu appris ?»
demanda Rand. Il alla également se servir du vin. Mine gagna le lit, lui aussi en cèdre rouge, et s'assit, les mains croisées sur les genoux et les yeux rivés sur Alivia. Le ton de Rand lui semblant trop rude, Katsuane arqua un sourcil. Le jeune homme eut un soupir un rien exagéré. Ayant demandé à la légende de le conseiller, il avait dû se plier à ses conditions. Selon Mine, une autre vision, Katsuane avait une chose importante à lui apprendre. De fait, il n'avait pas à se plaindre de ses conseils. Avec ses exigences de décorum, elle l'horripilait, mais le jeu en valait la chandelle.
Comment se déroule l'interrogatoire, Katsuane Sedai?
Aussi bien que possible. Aussi bien que possible,
répéta Ninévé, rageuse. Elle n'avait jamais promis à Katsuane d'être policée.
Cette femme me rend folle!
Très digne, Katsuane but une gorgée de vin.
Ma fille, que peut-on attendre d'autre d'une rejetée? Elle a eu beaucoup de temps pour apprendre à taper sur les nerfs des autres. « Rand !»
fit Ninévé.
« Cette prisonnière est dure comme une pierre. Après des jours, elle n'a toujours pas lâché l'ombre d'une phrase utile. En revanche, quand il s'agit de broder sur notre infériorité, elle est intarissable. Et elle adore ajouter qu'elle nous tuera tous, tant nous sommes des crétins attardés. »
Ninévé saisit sa natte, mais elle se ravisa avant d'avoir tiré dessus. Sur ce plan, elle s'améliorait. Tout le monde a sachant doté d'un caractère explosif, Rand se demandait pourquoi elle se donnait cette peine.
Malgré le discours dramatique de cet enfant, dit Katsuane en désignant l'ancienne sage-dame, elle a la situation à peu près en main. Quand je dis ça, il faut comprendre, autant que c'est possible compte tenu des contraintes regrettables qui nous accablent. On ne peut pas bander les yeux d'un artiste et s'étonner qu'il n'ait pas très envie de peindre.
On ne parle pas d'art, Katsuane,
lâcha Rand,
mais de torture.
Mine le regarda. Il capta de nouveau son inquiétude. Mais pourquoi s'en faire pour lui? C'était quelqu'un d'autre qu'on torturait.
« La caisse !» gémit Loustérine. « Nous aurions dû mourir dedans. Ainsi, tout aurait été fini. »
Katsuane but une nouvelle gorgée de son vin. Rand, lui, n'avait pas encore touché au sien. Trop épicé, il en perdait une bonne partie de son goût. C'était toujours préférable à un vin trop fort qui occultait le goût des épices.
« Tu nous mets la pression, mon garçon. » dit Katsuane. Mais tu nous interdis d'utiliser les bons outils. Que tu appelles ça torture, interrogatoire ou pâtisserie, je dis que c'est de la pure bêtise. Si tu nous autorisais à...
Non, grogna Rand en levant son moignon. Pas question de la menacer ou de la maltraiter.
Tes jours passés dans une caisse,
sauf quand on m'en sortait pour me rouer de coups. Sous sa responsabilité, personne ne traiterait une femme ainsi, fût-elle une rejetée.
L'interroger, oui, mais sans dépasser certaines limites.
Rand,
maugréa Ninevé.
C'est une rejetée, plus dangereuse qu'on peut l'imaginer.
Je mesure la menace,
concéda Rand, son moignon toujours levé. Le dragon tatoué sur son avant-bras brilla de tous les feux de ses écailles rouges et or. La tête manquait, consumée par le tissage qui avait failli tuer Rand.
Donc,
enchaîna Ninevé.
Tu devrais comprendre que les règles normales ne s'appliquent pas à cette femme.
J'ai dit non,
insista Rand.
Interrogez-la, mais sans lui faire de mal.
Pas à une femme. En moi, je garderai un peu de lumière au bout de tout ça. Trop de femmes ont déjà souffert ou péri à cause de moi.
Si c'est ce que tu veux, mon garçon,
dit Katsuane.
Il en sera ainsi. Mais ne viens pas te plaindre si nous ne parvenons pas à lui arracher le menu de son dernier repas, et encore moins la position des autres rejetés. Franchement, je me demande pourquoi tu nous forces à continuer cette comédie. Nous aurions plus vite fait de la livrer à la Tour Blanche.
Rand se détourna. Dehors, les 6 soldats avaient fini d'inspecter les chevaux. À première vue, tout allait bien. Les montures étaient attachées en ligne, et leurs brides avaient la quantité de moue idéale. Livrer ces mirages à la Tour Blanche, des propos en l'air. Avant de l'avoir fait parler, Katsuane ne lâcherait pas à la rejeter. Dehors, le vent faisait toujours flotter les 2 étendards du dragon.
« La livrer à la Tour Blanche ?»
répéta Rand en se tournant vers la légende.
« Quelle Tour Blanche pour commencer ? Ferais-tu confiance à Elaïda ? Ou aux rebelles plutôt ? Si on lui flanquait une rejetée sur les bras, je doute qu'Egwen nous remercierait. Au contraire, elle pourrait libérer ses mirages et me capturer. Puis elle me forcerait à m'agenouiller devant la justice des sœurs, avant de m'apaiser, histoire de toffer son palmarès un peu vert.
« Rand ! »
objecta Ninevé.
« Egwen ne ferait jamais.
Elle est la chair d'Amirline !»
dit Rand en vidant d'un trait son gobelet. De la piquette se vint.
« Aes Sedai jusqu'au fond de l'âme. Pour elle, je ne suis qu'un pion de plus. »
« Oui, » soupira Loustérine. « Nous devons rester loin de tous ces gens. Ils ont refusé de nous aider, comprends-tu ? Refusé. Parce que mon plan ne valait rien, ont-ils dit. Ça m'a laissé avec les 100 compagnons et pas de femmes pour former un cercle. Des traîtres. Tout est leur faute. Mais c'est moi qui ai tué Iliena. »
Ninevé dit quelque chose, mais Rand n'y prêta pas attention.
Loustérine, c'est ça que tu as fait?
Les femmes ne nous aideraient pas. Pourquoi?
En train de pleurer, le spectre ne répondit pas.
Parle!
Explosa Rand à haute voix.
Que la lumière te brûle, fléau de sa lignée! Parle-moi!
Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Rand en resta soufflé. Il ne s'était jamais laissé aller à s'adresser au spectre devant des témoins. Et cela savait tout, puisque ses mirages avaient déballé la vérité, le faisant passer pour un pauvre fou. Rand voulut faire courir ses doigts dans ses cheveux. Ayant envoyé pour cette mission sa main inexistante, il en fut pour ses frais.
Par la lumière, je perds la tête.
La moitié du temps, j'ignore quelle voix est la mienne et laquelle lui appartient. Avec la purification du Saïdin, c'était censé s'améliorer. J'aurais dû redevenir saint d'esprit.
« Saint d'esprit, non, » marmonna Loustérine. « Nous sommes déjà cinglés. Impossible de revenir en arrière. »
Le spectre sembla vouloir ricaner, mais il éclata en sanglots. Rand regarda autour de lui. Mine paraissait si inquiète qu'il dut détourner le regard. Alors qu'elle n'avait pas perdu une miette du dialogue entre le dragon et la légende, Alivia affichait un air entendu. Cédant à la pression, Ninevé tira enfin sur sa natte. Pour une fois, Katsuane ne fit pas un sermon à Rand parce qu'il avait craqué. Sereine, elle continuait à boire son vin. Comment pouvait-elle avaler ce truc? Une pensée ridicule dans la situation de Rand. Il aurait aimé rire, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Même l'humour noir n'était plus à sa portée.
Lumière, je ne peux pas continuer comme ça. J'y vois comme dans un brouillard. Ma main gauche est partie en fumée. Et mes vieilles blessures au flanc se rouvrent dès que je respire un peu trop fort. Je suis asséché, comme un puits trop utilisé. Je dois achever ma tâche ici et partir pour le mont Shayolgul. Sinon, il ne restera rien de moi avant même que le ténébreux essaie de me tuer.
Cette idée-là n'était pas drôle. Au contraire, elle incitait au désespoir. Pourtant, Rand ne pleura pas. rien ne pouvait arracher des larmes à l'acier. Et les sanglots de Loustérine suffiraient bien pour eux deux.